Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire. Avec les punks de la critique, j'ai nommé Olivia de Lamberterie, du L, avec Frédéric Becbédé du Figaro Magazine, avec Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française, Michel qui vient de publier chez Arléa Beckett, 27 juillet 1982, 11h30, date où le tout jeune Michel Crépu a serré la main de l'homme qui avait serré celle de Joyce, et pour ce petit livre absolument délectable, nous on te serre la main, Michel. Et puis avec Arnaud Vivian de Transfuge, de Regard, et surtout de la revue politico-littéraire Charles, dont le nouveau numéro de la nouvelle série vient de paraître, avec notamment un journal politique de Yann Moix que j'ai trouvé excellent et souvent très drôle, avec une interview involontairement drôle de Francis Lalanne qui se compare à Mozart. Non, c'est vrai. Hein,
ouais. Et avec un dossier. Faites par mes soins, j'ai adoré ce moment.
Et avec, puis la photo est pas mal non plus. Et avec un dossier complet sur la mairie de Paris, avec une interview beaucoup plus sérieuse de Madame Hidalgo. On parle ce soir des livres de Bret Easton Ellis, Marc Duguin, Lolita Pil, Orhan Pamuk et de Vive Albertine. Dans le courrier de la semaine, Nicolas Petitot, Saint-Surge, Pitié, pas le masque ni la plume. Au moins trois de nos critiques préférées se sont laissés aller à dire c'est juste parfait, juste fantastique et ce genre de choses. Nos oreilles saignent. Claude Di Benedetto reproche à Frédéric Becbédé d'avoir dit en parlant de Véronique Ovalde, elle n'est pas prête de s'en aller au lieu de pas prêt. Alors si un écrivain et chroniqueur de talent fait une faute aussi énorme, sur qui pourrons-nous compter pour que se perpétue notre belle langue française ? À propos de Madame Ovalde, Edith Séné de Bagnolet est en colère. Quand je suis en plein dans Personne n'a peur des gens qui sourient de Véronique Ovalde et que vous la cassez, comme ça je suis en colère. Et après pour toutes les autobiographies, les introspections, bref, les romans français à la mode, vous vous pâmez, sans commentaire. Quelques conseils, Nicolas Mouton préfère à Delphine de Vigan ou Véronique Ovalde. La femme en contre-jour, c'est chez Notabilia de Gaël Josse. Ou encore, Le matin est un tigre de Constance Joly chez Flammarion, premier roman, comme un jeu de piste parmi les textes de Queneau, Vian ou André Breton. Autre conseil prodigué par Claire Graffion, qui est une fidèle auditrice du Masque, c'est Isabelle Asensio, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui aurait écrit un roman magnifique, Délit de gosse au Rouergue, avec, paraît-il, un uppercut final absolument incroyable. René Collin, René E. Collin de Narbonne, conseille pour sa part, Funérailles molles de la chinoise Fang Fang, vous avez lu ça? Non? À l'Asiatech, c'est pas normal ça, Olivia, sur la vie d'une vieille chinoise amnésique retrouvant la mémoire par cercle concentrique et l'histoire de la Chine sous Mao.
Ça donne envie.
Valérie Garezio, qui est une savoyarde fidèle, me remercie de l'avoir fait découvrir Yves Ravet, et j'ai lu Pas dupe, ça c'est chez Minuit, enchanté. J'ai enchaîné avec Trois jours chez ma tante, je me rends compte, ça, j'aime beaucoup la formule, que cet auteur me manquait avant que je ne le connaisse. Je vais me jeter sur le reste de son œuvre. Merci. Enfin, Inès Paloma fait appel au masque. J'écoute votre émission que j'apprécie pour sa richesse et sa finesse. Ben, merci. Finesse, ça dépend de qui. Hein. Je m'adresse à vous afin que ce message puisse être entendu. Nous avons besoin de vous pour porter notre voix au sujet des nouveaux programmes de français qui viennent de paraître. Enseignant dans un lycée de 1300 élèves à proximité de Nantes, nous sommes avec mes collègues indignés par tant de conservatisme. La littérature contemporaine est à la trappe. Les nouvelles épreuves du bac nous donnent le sentiment de revenir 50 ans en arrière. Nous combattons cette réforme et le retour à des épreuves passéistes qui vont tuer toute approche vivante de la littérature. Aidez-nous à faire entendre notre cri d'alarme. Le cri est passé et je pense... Oui, qu'est-ce que tu dis, Frédéric ?
Je pense que c'est vrai qu'il faudrait étudier Guillaume Musso plus souvent au lycée.
Bien, allez, c'est l'événement de...
Deuxième siècle avant Jésus-Christ, il y avait un Guillaume Musso qui était remarquable.
C'est vrai, c'est pas vrai ? Un Guillaume Musso ?
Oui, il y avait un Guillaume Musso dont il existe quelques manuscrits au British Museum.
On ne sait jamais avec Crépus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai.
Moi non plus.
Je vois que tu t'arranges. C'est l'événement de la saison, la sortie 10 ans après Suite impériale d'un nouveau livre de Bret Easton Ellis, White, Blanc, traduit par Pierre Guglielmina chez Robert Laffont. Ce n'est pas, je vous le dis tout de suite, un roman, mais un essai contre le politiquement correct et les réseaux sociaux. Un livre qui fait scandale aux États-Unis, où j'ai lu des papiers assassins, où la presse reproche notamment à Bret Easton Ellis de vouloir normaliser, je dis bien normaliser, Donald Trump, de se moquer du mouvement MeToo. Bref, d'avoir, pour certains journaux américains, viré facho. Dans ce livre, l'auteur d'American Psycho, âgé de 55 ans aujourd'hui, dit avoir fait son éducation comme Frédéric, grâce aux films d'horreur et à la fièvre du samedi soir, surtout, rend un hommage appuyé à John Didion, égratigne la communauté gay, dit pique-pan de la réalisatrice Catherine Bigelow, surestimée parce que femme. Et il dénonce la victimisation érigée en art, il vomit le monde contemporain, qu'il appelle le post-empire. Alors le pire, c'est les millennials, tous ceux qui sont nés après l'an 2000, qui ne seraient plus que des donneurs de leçons. Voilà, donc c'est le nouveau Bret Easton Ellis, 20 sur 20, ce livre, ou moins que zéro? Qu'est-ce que vous allez me dire, Frédéric? Pas mal, hein? Mal.
Écoutez, moi, en tant que docteur en hélisologie de l'université du Limelight, promo 87... Je suis très admiratif de ce livre parce que, pour moi, c'est sa fêlure. C'est-à-dire que vous savez qu'en 1936, Scott Fitzgerald a publié ses 3 articles dans Esquire où il essayait de donner le mode d'emploi de son désarroi et d'essayer d'analyser l'échec, finalement, ou en tout cas la douleur du succès, la difficulté qu'il y a quand on fait un succès jeune et en quoi ça l'avait détruit. Et ce livre, White, c'est exactement la même démarche. Il analyse les dégâts, les dommages collatéraux des succès de Moins que Zéro et American Psycho, surtout. Il montre comment il les a écrits, raconte à travers quoi il est passé, c'est-à-dire qu'il, quand même, il a été menacé de mort de nombreuses fois, il a été assassiné par la critique, mais ça, c'est pas très grave. Mais c'est surtout que...
Il l'est encore.
C'est surtout que, oui, chaque fois qu'il a écrit des livres qui étaient des livres très provocateurs, des livres donc utiles, enfin, il me semble, des livres de littérature qui dérangeaient, personne, absolument personne ne le défendait. Quoi. C'est ça qui est assez incroyable. Il s'est retrouvé vraiment très seul. Mais c'est pas que ça. Le livre raconte aussi son enfance, et ça, c'est peut-être ce que je préfère. Donc son enfance à Los Angeles, entouré de gens plus riches, avec un père absent, avec cette culture d'autodidacte qui s'est faite tout seul en allant au cinéma seul dans des grandes salles, voir Phantom of the Paradise ou voir American Gigolo. Et tout ça, c'est la première fois qu'il en parle. Au fond, on ne savait pas qui c'était Bret Easton Ellis. On le confondait avec ses personnages, qui lui ressemblaient peut-être. Mais enfin, c'est la première fois qu'il fait cet exercice de se mettre à nu.
C'est quand même aussi, tu parles beaucoup du passé, mais c'est une attaque très très violente de...
Oui, alors moi ça m'a paru...
Du monde dans lequel on vit et y vit.
Oui, et j'ai trouvé que c'était... tout ce qu'il dit est très juste, c'est difficile d'être pas d'accord avec cette défense de la liberté d'expression mise à mal par les réseaux sociaux où tout le monde juge tout le monde et dès que quelqu'un hausse le ton, il est stigmatisé. Ça, j'ai trouvé très juste.
Mais s'en prend à Meryl Streep, par exemple, à cause de son discours
oui,
son
ou discours au film Moonlight. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne des prix, non pas au talent, c'est pas le premier critère. Et c'est ça qui est dommage. Peut-être qu'il y a des œuvres de talent qui défendent des vraies valeurs, mais on le donne plus à l'idéologie qu'au talent. Par ailleurs, l'autre chose qui m'a beaucoup plu, c'est quand même la forme. Il faut le dire, pour moi, ce que je préfère chez Ellis, finalement, c'est pas tellement ce qu'il raconte, mais c'est la manière dont il le dit, qui est toujours laconique, drôle, et comme il le définit lui-même, du nihilisme rutilant. Je trouve que c'est une...
Donc voilà. Tu prends tout dans White, si je comprends bien.
Oui, mais je prends tout dans toute son œuvre, de toute façon.
Michel ?
Moi, je bénis ce livre d'exister.
À ce point-là ?
Ah oui. C'est le White, c'est le double blanc des Beatles. C'est la même chose. C'est-à-dire que le double blanc
des Beatles.
Je compare volontiers avec le double blanc des Beatles parce que...
Il y a Helter Skelter.
Il y a Helter Skelter. Mais il y a surtout, en fait, la possibilité de faire exister ensemble des formes qui sont très différentes. Si tu écoutes le double blanc, tu le constates constamment. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce que défend ce livre, sans justement employer l'attirail de la défense et de la polémique, c'est un point de vue tout simplement civilisé, honorable, raisonnable. C'est un livre raisonnable. C'est l'anti-American Psycho, c'est l'anti-glamorama. C'est la face montaignesque de la littérature américaine incarnée par...
La face montaignesque du double blanc.
Oui, absolument. Mais absolument. C'est une possibilité de faire exister des formes ensemble sans que la Troisième Guerre mondiale se déclenche aussitôt. Enfin, je trouve ça extraordinaire.
Enfin, entre parenthèses, la guerre, elle s'est déclenchée à propos d'Ellis aux États-Unis. Là, vous êtes.
Oui, parce qu'il c'est un déclencheur d'hystérie.
On peut pas ni le nier.
Non, mais c'est un déclencheur d'hystérie, ça c'est certain. Mais lui, le Paul Ellis est très calme, très raisonnable, très beau, très cool.
Ça peut ressembler aussi à ce que provoque Houellebecq comme réaction.
Hein, mais je crois que Houellebecq est plus dans le catéchisme que Ellis. Ellis n'est pas dans le catéchisme.
Mais
le problème avec Houellebecq,
c'est que... Est-ce que vous croyez que le président Macron va remettre la Légion d'honneur à Bret Easton Ellis?
Le discours serait intéressant.
Oui. Bon, Olivia.
Ah ben moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre. Je pense que Bret Easton Ellis, c'est moi. C'est un livre sur la conception de l'existence de Bret Easton Ellis, qui considère que vivre, c'est avoir son lot de souffrances, de transgressions, de lutter contre les tabous et d'expérimenter la sexualité, qui n'est jamais une affaire de bisounours. À partir de ce principe de vie, lui explique que la société numérique a créé une société dans laquelle tout le monde veut avoir des likes. Donc, pour avoir des likes, chacun se montre sous un jour de bisounours, de licorne, de bien-pensance, et que dans ce monde-là, il est absolument impossible d'avoir une opinion divergente de la masse. Moi, je trouve
cela
est très vrai.
On a le droit aussi, par exemple, d'être contre la politique de M. Trump, par exemple.
On a le droit.
Sans passer forcément pour un...
Mais c'est ce qu'il dit. Il dit qu'on a absolument le droit d'être contre la politique de Trump, mais il dit aussi que quand Barbara Streisand dit « je grossis à cause de Trump », quand tout le monde commence à être hystérique, il dit que ce sont comme des enfants qui, lorsqu'ils ont perdu une course de course en sac, là, disent « ah bah tiens, il faut recommencer la course parce que on va changer les règles, on va mettre des règles pour que je gagne la course ». Et il y a quelque chose de ça dans l'hystérie qui a été générée par l'élection de Trump. Il dit que si vous parlez à un dîner avec des amis qui disent qu'ils ont voté Trump, que si vous dites ça à des amis qui sont anti-Trump, on ne vous parle plus.
C'est la guerre.
Donc il y a quelque chose, évidemment, d'hystérique dans cette attitude.
Bien sûr.
Je trouve qu'aujourd'hui, il y a une assimilation de l'identité et des opinions, mais qui a été d'ailleurs tout à fait vue en France avec l'affaire de Yann Moix au début de l'année, qui a dit « je ne veux pas coucher avec des femmes de plus de 50 ans ». Bon, c'est son opinion. Il n'a pas dit « toutes les femmes de 50 ans sont répugnantes et bonnes à jeter à la poubelle ». Et pourtant, le monde a réagi comme s'il avait dit ça. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de justesse, alors aussi de provocation dans ce livre. Mais que si, effectivement, vous n'avez pas une opinion qui ressemble à celle de tout le monde, vous êtes taxé de raciste ou de misogyne. C'est aussi vrai.
Arnaud ?
Écoutez, je pense pas que Bret Easton Ellis soit un très grand penseur. C'est certainement pas le grand penseur du siècle. On s'en aperçoit quand même souvent en lisant ce livre, qui est, à mon avis, dans la réflexion. Hein, je parle vraiment de ce qui est du terme de la réflexion sur cette question de la liberté d'expression, mais pas simplement. Par exemple, il dit à un moment, à quoi peut bien servir le fait de nier la couleur d'une chose? On voit bien que là, le mot chose, c'est un euphémisme pour personne, mais il s'agit pas de nier la couleur d'une personne, il s'agit d'en arracher les stéréotypes qui sont attachés depuis des millénaires, y compris aux femmes. Et donc, je pense là, il y a un petit problème quand même d'intelligence chez Bret Easton Ellis, outre le fait qu'il s'intéresse à des choses qui, moi, me semblent particulièrement sans intérêt. Lorsque je parle, il dissèque Kanye West dans une émission américaine. On s'en fout, quoi. On s'en tape complètement. Et je me suis aperçu d'ailleurs combien, depuis une vingtaine d'années, j'étais un immense, genre, on est tous des critiques de la génération de Bret Easton Ellis. Un des premiers livres qu'on a dû chroniquer dans notre vie professionnelle, c'est Moins que Zéro. Et puis ensuite, Le Choc, American Psycho. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment Bret Easton Ellis ne parle pas du tout Glamourama dans ce livre. Oui, c'est comme s'il ne l'avait jamais écrit. Ça n'existe pas. Il est vraiment sur
Parce que
American
c'est le contraire.
Psycho. Alors pourquoi American Psycho? C'est que il a eu effectivement une révélation, une vision, puisque Patrick Bateman, son idole, c'est Donald Trump. Donc on est dans les années 90 et il a eu cette intuition géniale dans ce livre qui expliquait comment on est marqué par les marques, comment on est des esclaves marqués. C'est ça que racontait American Psycho. Et parfois, moi, je suis totalement d'accord avec Frédéric, c'est que ce que je préfère chez lui, c'est sa manière d'écrire. C'est pas tellement sa pensée, parce que, encore une fois, je suis assez souvent contre ce voilà, quelque chose qui est de l'ordre de la réaction. Il ne comprend pas que le narcissisme dont il parle énormément, c'est la conjugaison de tous ces narcissismes, et rien que le fait d'employer le mot au pluriel dit le problème, tous ces narcissismes empêchent la liberté d'expression. C'est ça la réalité.
Mais c'est ce qu'il dénonce.
Mais oui, mais lui-même est rentré dans ce narcissisme. Il a été un des premiers à utiliser Twitter comme outil de communication. Il en a beaucoup joué. C'est ce qui a fait un moment où il ne produisait plus de texte. Il était encore présent en tant qu'écrivain, car je pense qu'un écrivain peut écrire des tweets, c'est tout à fait possible, c'est un instrument possible. Mais là où il est magnifique, c'est par exemple quand il explique, il y a deux pages où il se souvient d'une balade en voiture en 1986, il est avec une copine, ils écoutent Manic Monday des Bangles, ouais. Et elle lui explique pourquoi cette chanson est anti-féministe et pourquoi elle ne l'aime pas. Et il dit, c'est la première fois que quelqu'un que j'aimais n'aimait pas la même
chose
que moi.
On arrête, c'est Bret Easton Ellis, c'est White, c'est chez Robert Laffont, et vous allez être maintenant contraint d'être beaucoup plus rapide sur les autres livres après le temps que vous avez accordé à Bret Easton Ellis. Allez, Elena, les joueuses chez Stock, un livre qui avait été d'ailleurs conseillé par Frédéric à la fin d'un masque. C'est le retour après 10 ans d'absence de Lolita Peel, qui a connu un très grand succès en 2002. J'ai pas les chiffres là, mais je crois que c'était très impressionnant. Elle avait 20 ans avec Hell, un premier roman très...
17. Quand elle a écrit le livre 17, et je crois qu'il est sorti 18. Oui, non, c'est vraiment très, très, c'est très rare. En
fait. Alors, elle était encore plus jeune. Donc, un premier roman, mais ça ne change pas ce que je voulais dire, à savoir qu'il était à l'époque déjà très cocaïné, adoubé d'ailleurs par Frédéric Becbédé dans la presse.
Logiquement.
Logiquement. Porté ensuite à l'écran par Bruno Chige, roman qui s'ouvrait par « Je suis une pétasse », qui a marqué les esprits. Un peu moins que le début de « Bonjour tristesse », mais enfin, c'est quand même resté. Suivront Bubblegum en 2004, que je n'avais pas lu, Crépusculeville, en 2008, que je n'avais pas lu non plus. Et depuis, plus rien, jusqu'à Elena et les joueuses. Elena, une ancienne joueuse de 30 ans, qui a foutu sa carrière en l'air sur un coup de tête. Son père est en prison, elle n'a pas un rond. Elle demande de l'aide à une richissime famille, les Chèvres-Loups. Je crois que c'est quand
je
même
sais pas...
Je
pas où elle a été cherchée, ce
Oui,
nom.
C'est bizarre. Chèvres-Loups, les Chèvres-Loups.
Tout à fait, j'aime beaucoup, d'ailleurs. Oui. Mais... Mais je suis très curieux de savoir où elle a trouvé.
Un peu à la Gide.
Et donc cette famille qu'il a, dont elle aime, un des fils qui s'appelle Ismaël. Ça se passe à Paris en août 2014. Et avec ce livre, ça j'ai lu une déclaration de Lolita Peel, voudrait être, ça faut que vous m'expliquiez les uns les autres, un mélange de Sagan et de Pogba.
Qui?
Ah oui, Paul Pogba, footballeur champion du monde.
Ah ok.
Oui.
Oh là là, Michel, il faut que tu fasses des révisions, parce que tu connais l'album double blanc des Beatles, mais le foot, tu ne suis pas beaucoup. Olivia,
Je trouve que ça commence assez bien, par une sorte de réflexion d'une jeune fille qui est passée tout près du triomphe. Et on voit qu'il y a beaucoup sûrement de choses autobiographiques dans une première partie, que je trouve très intéressante sur une fille qui n'a pas voulu assez le succès, qui n'y a pas mis son âme et son cœur. Et je trouvais que c'était assez intéressant.
On plaisante quand même.
Et à partir de là, ça devient n'importe quoi. Ça devient une sorte de roman faussement classique sur la fascination d'une famille, les chèvres-loups. Et tout est dans ce choix de nom de famille, je trouve, qui marche pas. Chèvres-loups, bon, ben, on voit peut-être ce qu'elle a voulu dire.
Ça aurait été chèvre-cheval, c'est pas mal, mais chèvre-loup.
Non, c'est très bien écrit, mais c'est un peu le syndrome une Ferrari, mais pour aller où ?
C'est pas
moi,
très bien écrit.
C'est pas très bien.
C'est pas très bien écrit.
Ça va dans le mur. Il y a trop de trituration, je pense qu'elle a voulu trop montrer qu'elle était un écrivain. Et je trouve que malheureusement, c'est pas très probant comme démonstration.
Arnaud ?
Oui, il y a des petites choses. Par exemple, je suis tombé sur un soleil noir comme un sac de poils. C'est pas mal. Il y a des petites choses comme ça. C'est cette idée de l'écriture qui est là, un peu trop montrée, avec l'idée que on va mélanger les niveaux de langage. Ça, je crois qu'elle veut dire par Pogba et c'était l'autre.
Sagan.
Voilà. L'idée Pogba, d'être Pogba. Entre culture haute et culture basse avec des dialogues assez marrants où ça devient thèse aristocratique et puis après on est au niveau du rap, voilà, c'est une espèce de scansion avec dans les meilleurs moments ça fait penser un peu à certains films de Romère, je trouve. Il y a quelque chose un petit peu
des
petites situations romériennes. Oui, c'est pas mal, mais ça manque d'une petite colonne vertébrale, hein. Ça manque d'un sujet, on va dire.
Oh là là, t'es pas très punk là, hein,
oui.
Franchement.
Frédéric, tu persistes à signer ?
Moi, je persiste à aimer Lolita Tapil, mais je pense que ça a des points communs avec Bret Easton Ellis. Le succès les a un peu tués. Elle a été aussi l'objet d'une haine absolue, d'un mépris.
Une haine ?
Oui, bien sûr. Elle s'est fait descendre. Bien sûr. Et les livres suivants n'ont pas été lus.
Il n'y a pas eu de haine.
En tout cas, pas par toi. Et non, je pense qu'elle fait l'objet d'un mépris. Et donc là, elle essaie évidemment de revenir après 11 ans d'absence où elle est partie à Brest pour travailler.
Elle est partie à Brest, mon Dieu. Tu te rends compte ?
C'est dingue. C'est dingue.
Même pas à Biarritz. Non, mais c'est pas croyable.
C'est plus au nord.
Elle est partie à Brest.
Mais tu vois, c'est
ça comme s'il parlait du goulag.
Le problème avec Lolita Pil, c'est que le storytelling autour d'elle est presque plus intéressant que c'est.
Non.
Je suis pas d'accord. Écoute, quand elle décrit ce personnage de fantôme qui hante un peu des riches parce qu'il est complètement fauché, elle flotte comme une fumée. C'est assez joli. À un moment, elle dit moi, j'ai pas de chance. Au lieu de me taper des beaux ténébreux, j'ai toujours eu droit au lait limpide, qui sont
bien,
quand même une catégorie qu'on.
Lait limpide.
Le lait limpide. Le résumé du livre, c'est qu'on. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, elle a publié à 17 ans, eh ben on fait moins le malin quand on en a 36. C'est le sujet de ce livre. Alors c'est vrai qu'il y a un côté un peu pathétique ou bien des dialogues qui sont oui, c'est vrai, ou tout d'un coup elle dit j'ai le seum pour avoir l'air jeune parce qu'elle voudrait rester jeune, mais c'est marrant de mélanger ces niveaux de langage avec des grands adjectifs. Moi, j'ai été touché, je trouve que ça fonctionne et notamment dans les dialogues qui sont très très drôles.
Michel.
Je suis absolument d'accord. Moi, j'ai été époustouflé par ce livre. J'ai pas lu les autres. Je m'égote pas. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Alors, j'aime beaucoup le tennis, la place du tennis dans ce livre, puisque la narratrice,
Madame
Chèvre-Loup, donc, joue au tennis. Et elle écrit un peu comme ça aussi. Enfin, elle écrit en tennis. Et...
Mais la narratrice n'est pas Madame Chèvre-Loup, hein.
Oui, mais peu importe. On s'en fout de ça. J'ai absolument rien compris.
Chèvre-Loup, c'est les riches. Une amie à elle qui s'est peut-être suicidée ou qui s'est suicidée.
C'est ça.
C'est Elena. C'est Elena qu'elle a été là.
On s'en fiche éperdument. Ce qui est intéressant, c'est le rythme. C'est le tchatché de ce livre. Voilà. C'est un livre tchatché. Je laisse l'assistance. Non, c'est ça qui est bien dans ce livre. C'est le plaisir qu'on prend à le goûter. C'est un livre rythmé. Et peu importe l'histoire, je m'en fiche éperdument. S'il faut commencer à s'intéresser.
Mais tu l'as lu ou pas le livre ?
Absolument. Absolument. Et je peux même te dire que page 146 ou 136, vous pouvez vérifier, il y a une citation extraordinaire du De Natura Rerum de Lucrèce sur la vie et la mort.
Lucrèce, l'écrivain latin, pas le...
Lucrèce, l'écrivain latin, comme on disait tout à l'heure de Musso, c'est un écrivain du IIe siècle avant Jésus-Christ.
Ah oui.
C'est un passage...
On t'a vraiment perdu, je veux dire.
Au début,
je me disais, il est bizarre, mais maintenant, j'en ai la conviction.
Vous pouvez vérifier, vous ne perdrez pas votre temps. Ça prend 10 lignes, c'est extraordinaire. Je n'ai qu'une envie, là, c'est d'aller trouver une librairie ouverte ce soir pour m'acheter une traduction du De Naturarium. Tellement c'est beau, tellement c'est fort, et tellement ce livre est empreint de ça, finalement. C'est pour ça que je m'en fous de l'histoire.
Elena et les joueuses, c'est donc Lolita Pil, le livre latin, romain, chez Stock. Transparence, le nouveau livre chez Gallimard du prolifique Marc Duguin, dont on réédite en folio ces jours-ci, Ils vont tuer Robert Kennedy, un roman donc d'anticipation qui se déroule à la fin des années 2060 sur un sujet qui passionne l'auteur d'Une vie sans fin, puisque c'est le transhumanisme.
Bah non, mais c'est vrai. Bien sûr, c'est tout à fait le même sujet.
Transparence, c'est une start-up numérique implantée en Islande et dont la présidente française est accusée par la police locale d'avoir fomenté son propre assassinat au moment où son entreprise s'apprête à commercialiser le programme Endless, un programme révolutionnaire, bien sûr, et très beckbédérien sur l'immortalité, puisqu'il consiste tout simplement à transplanter, après ou même avant sa mort, les données personnelles numérisées d'un individu dans un corps évidemment artificiel. Je rappelle quand même qu'on doit à Duguin un livre sur la dictature invisible du numérique, dont voici un peu la suite romanesque. Et c'est écrit là, à la première personne, qui n'est pas celle d'une joueuse de tennis, ni d'une Madame Chevreloup, mais de la femme qui est à l'origine de cette révolution qui tutoie la présidente des États-Unis, qui est transsexuelle, entre parenthèses, et qui rachète rien moins que Google. Frédéric, je ne te lance pas par hasard.
Non, bien sûr, je suis mal placé pour juger ce livre, puisque j'ai commis moi aussi un livre sur ce sujet il y a un an. Alors, je ne vais pas te dire que le mien est mieux, mais je vais le dire, moi j'avais choisi une autre forme, la non-fiction, et ça se passait aujourd'hui. Ce que fait Marc Duguin est beaucoup plus difficile, puisqu'il décide que ça se passe en 2068.
Ce qui n'est pas très loin non plus.
Non, 40 ans, mais c'est le même écart qu'entre l'écriture de 1984 en 48, ouais.
Ça passe vite,
de 84. Hein, donc il fait comme Orwell. N'empêche que pour moi ça ne fonctionne pas, parce que tout ce qu'il dit qui va se passer dans 40 ans, en fait c'est déjà là aujourd'hui. La disparition des oiseaux, Google qui connaît tout sur tout le monde, le GPS, la génétique, tout ce qui, en fait au fond il a...
Non, la présidente transsexuelle, ça ne...
C'est pas encore.
C'est pas encore. Hein.
Non, mais c'est en marche. Hein.
Mais... Et... Donc en fait... Je crois qu'il n'a pas fait exprès.
Pas fait exprès. C'est vrai en plus.
Il n'a pas fait exprès. Attention à la transphobie aussi. Hein.
Donc quoi,
moi, tu sais pas, voilà. Okay. Bon, bref, donc moi, avec Marc Duguin, j'ai un petit problème aussi formel. Je trouve que c'est pas écrit, c'est délibérément extra-littéraire. Voilà, c'est des phrases vraiment très très lourdes. Et que finalement, il aurait pu intituler son livre Platitude au lieu de Transparence.
Arnaud, c'était déjà pris.
Oh bah écoutez, moi, j'ai des plaisirs simples. Hein. Il suffit de... Voilà, quand je lis dans un livre, je voyais chez mes collègues transhumanisme la même volonté d'en finir tout simplement avec le peuple, mais personne n'en parlait librement. On en revient au sujet de la liberté d'expression. Je trouve ça juste formidable. Ou quand je lis « La révolution numérique a conduit à peu de dictatures, mais elle a vu éclore des démocraties autoritaires élues par des internautes manipulés sans conscience de l'être », je dis ben bravo, j'ai l'impression que ça a décrit à peu près, non pas le futur, mais le présent dans lequel nous vivons totalement. Donc c'est pas du tout un livre d'anticipation, c'est vraiment un livre qui critique la société dans laquelle nous vivons. C'est marrant, au même moment, je lisais un essai de trois auteurs de la revue Ligne de Risque, qui est exactement sur le même thème. Il y a une tonalité christique dans le livre de Marc Duguin, qui est évidente. C'est quelqu'un qui devient l'équivalent, finalement, de Jésus-Christ, mais c'est une femme qui va d'ailleurs écrire un livre qui va devenir le best-seller, qui a une sorte de nouvelle Bible sur comment on doit se conduire. C'est aussi un livre contre Google, mais ce livre nous rappelle, comme cet essai qui s'appelle « Tout était accompli chez Grasset » de Yannick Enel, François Mironis et Valentin Retz. Voilà les trois. Ils disent qu'on est rentré dans ce qu'on appelle l'âge de la fin, c'est-à-dire où nous avons le sentiment de vivre dans la menace de notre destruction, pas simplement à cause du changement climatique, mais aussi des big data, de l'obsession de Google d'en finir avec la mort, de faire mort à la mort, hein, finalement, mais pour quel sens à la vie? Et donc, c'est exactement ça qu'on est en train de dire. Et le livre, il est extrêmement drôle et un peu triste aussi, parce qu'il y a quand même des retournements jusqu'à la fin qui disent exactement ce qu'on est en train de lire.
Olivia.
Alors moi, je déteste les romans d'anticipation, je comprends jamais rien. je dois mobiliser absolument tous mes neurones. Et là, j'ai trouvé que c'était passionnant. C'est pas un livre de styliste, c'est des livres qu'il écrit très vite. Mais c'est
un côté
livre
Michael Crichton, en fait.
Sur la collecte des données et comment la collecte des données va sauver le monde de manière économique, puisqu'elle va permettre d'instaurer le fameux revenu universel.
Ouais.
Puisque vous allez pouvoir accepter de vous faire greffer des puces partout, et en échange de vos données. À partir de ça, le hasard va être complètement aboli, puisque la dame, par exemple, elle a fondé une société, Transparence, qui permet de trouver le conjoint ou la conjointe qui est le plus assorti à vous. Donc les couples, maintenant, vont perdurer. Votre santé va être absolument révolutionnée, puisqu'on va savoir exactement de quoi vous avez besoin. Et à partir de là, elle imagine un homme immortel. Mais moi, j'y ai cru à fond. Parce qu'en fait, à partir de vos données, on va pouvoir vous fabriquer une sorte de clone qui va vous remplacer.
C'est déjà là.
Et ça va pouvoir sauver la planète, puisque ce clone n'aura plus de besoin. Donc, on abolit ainsi la consommation et on va pouvoir...
Mais c'est un homme de pierre, par ailleurs. C'est un homme minéral. Enfin, un homme
tout le livre, je me suis dit, mais comment il va pouvoir se sortir de ce gourbi dans lequel il s'est mis et faire une fin acceptable et il fait une fin géniale.
Allez, super.
On ne racontera pas, Michel.
Écoutez-moi, il y a un passage...
Qui est un peu notre immortel, ici.
Un petit peu. Il y a une chose qui m'a profondément ému dans ce livre, vraiment, je dis ça très sérieusement, c'est quand il évoque cette période, il y a longtemps, où il y avait l'écriture. Cette chose bizarre qui a disparu, ça a duré 6000 ans à peu près, ça s'appelait l'écriture, ça s'appelait la littérature, on n'a jamais trop bien su en quoi ça consistait, et puis c'est parti. Et il arrive à restituer, à donner ce sentiment à distance d'une telle étrangeté qui m'a aussi rappelé, mais je le réciterai pas parce que je le connais pas de mémoire, mais un des plus beaux poèmes que je connaisse de Jules Supervielle quand il dit, mais est-ce que vous vous souvenez du temps où nous étions sur la Terre? Ben, ce livre donne, pas à toutes les pages, mais il y a parfois des, rejoindrai aussi un peu Frédéric, parfois une certaine lourdeur, mais il y a quand même une espèce d'émotion profonde vertueuse au bon sens du terme. Je pense que c'est un livre profondément vertueux et qui touche le lecteur, qui peut toucher le lecteur. Et ça, c'est fort. C'est assez fort parce qu'en effet, c'est très, très, très difficile d'écrire un roman de science-fiction.
Transparence, c'est le livre de Marc Duguin, La femme aux cheveux roux, traduit chez Gallimard par Valérie Gay-Aksoy, ou Aksoy, je ne sais pas comment on dit, le roman du prix Nobel de littérature turque, Orhan Pamuk, un roman qui se passe à Istanbul et sa région proche et qui nous plonge, c'est vraiment le cas de le dire, dans le monde des puisatiers. Un tout jeune homme, Sem, dont le père pharmacien est parti sans laisser d'adresse, apprend le métier auprès d'un maître puisatier. Toi, tu as eu un maître puisatier, toi, Michel, autrefois, non?
Tout à fait.
Oui. Donc, il apprend le métier avant d'aller à l'université et il tombe fou amoureux d'une femme aux cheveux roux qui fait partie d'une troupe de comédiens ambulants jusqu'au jour où survient un accident sur le chantier du puits, un roman donc de formation aux allures de fable sociale, raconté 30 ans après les faits, qui se passe dans la Turquie contemporaine, mais où Pamuk ne craint pas d'établir un parallèle avec Œdipe Roi de Sophocle, Sem découvrant que son père a été l'amant de la belle rousse, Michel.
Je trouve ce livre admirable, et je ne sais pas très bien pourquoi.
Mais tu vas trouver, si tu cherches un peu.
Non, mais parce que, tu as très bien dit, c'est un roman d'apprentissage, dans tout ce que ça peut avoir de plus classique, de plus attendu, une forme littéraire archi rebattu. Et le livre commence comme ça, et je me suis dit, c'est terrible, je vais pas tenir au-delà de 30 pages, je vais pas tenir. Et puis d'un seul coup, vous êtes ferré. Et d'un seul coup, vous êtes pris par cette histoire, qui dit une sombre histoire au début, du père et du fils qui cherchent de l'eau dans un faubourg d'Istanbul, et qui passent leur journée dans l'angoisse de trouver cette eau qui ne vient pas, et à partir de là se passe un événement qu'on peut pas raconter là, parce que sinon ça fout en l'air tout le suspense du livre, et il arrive à vous ensorceler avec cette histoire, sans aucun effet de manche, sans aucune stratégie littéraire tordue, etc. C'est vraiment la forme du roman d'apprentissage dans ce qu'il peut avoir encore une fois, de plus classique, et qui ensorcelle littéralement le lecteur. Je trouve ça très fort.
Frédéric ?
Alors non, moi j'ai pas été ensorcelé. Et je pense qu'il y a un problème avec le. De toute façon, quand.
T'aimes pas les puzzatiers, je pense, toi.
Mais non, mais ce que j'aime pas, c'est les symboles comme ça. Alors évidemment, ils creusent dans le passé. Et puis.
Ah oui, t'as pensé cherchent... à ça.
Je me suis dit que c'était une métaphore, cette histoire de puits.
J'ai jamais pensé
on
à ça.
On creuse dans la terre aride de ce pays non démocratique.
Ah oh non, il y a des plans. Chercher la liberté. C'est très technique, au contraire.
Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, t'as raison. Il y a, on voit un treuil à un moment dessiné. Mais oui. Alors déjà deux choses. Première règle. Quand on parle de fable initiatique, faut partir en courant. Ça, c'est la, cette règle
ça.
Se vérifie une fois de plus. Deuxième chose, il y a un syndrome du Nobel très clair. Souvent, les auteurs qui ont reçu le prix Nobel se mettent à pontifier, à se regarder.
Alors, tu penses à qui, là, parce que ça, on peut pas lancer ça sans donner des noms.
Saramago, Coetzee, Vargas Llosa, souvent.
Coetzee, non, pas tellement.
Désolé.
Là, non, Frédéric, je t'assure, tu devrais le relire.
Alors, c'est peut-être la traduction. Peut-être tu l'as lu en turc.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Parce que moi, je suis désolé.
Michel lit toujours les deux versions quand c'est un étranger.
Original. Et après... Ne jamais lire un roman turc sans l'avoir lu d'abord. Dans sa
je prends un exemple. Je prends un exemple. Le titre. La femme aux cheveux roux est répété pendant tout le livre avec des majuscules à femme, cheveux et roux. Il suffisait de dire la rouquine. Hein. C'est tout simple. Pourquoi se compliquer la vie? En plus, on se dit que cette femme aux cheveux roux, elle va nous être décrite à un moment. Peut-être qu'il y a d'ailleurs une scène de sexe. Eh ben non, c'est une ellipse à ce moment-là. On n'a rien, on n'a pas les détails.
Si, il y a une belle scène de sexe.
Oh, franchement. Non. Il m'en faut plus. Non. Si, si. Il m'en faut plus.
Non, parce que tu n'as pas d'imagination, c'est tout.
Mais... Ça manque de chair, je trouve, pour un livre intitulé ainsi. Voilà, ça manque de chair, ça manque d'incarnation, et tout ça, c'est une parabole politique assez didactique et assez
C'est marrant, j'y ai pas du tout
elliptique.
Pensé en lisant le livre. C'est ça qui m'a étonné, d'ailleurs, parce que je m'attendais à ça, à ce que tu dis. Mais finalement, non, c'est ça.
Il a été ensorcelé.
J'étais surpris, justement, par le fait qu'il n'y avait pas de surcharge, comme tu viens de le décrire.
Arnaud. Et
bon, je suis totalement de l'avis de Michel sur ce coup-là. C'est un livre que j'ai trouvé admirable, et justement, par son classicisme qui, alors, est-ce que c'est l'effet Nobel? Parce que c'est vrai que, on se dit, là, il l'a pas volé son Nobel, quand même, quand on lit ça. C'est rare. Nous, en fait, parce que c'est aussi dans l'histoire de la littérature, on a l'impression qu'en France, on ne saurait plus écrire un roman de ce classicisme-là, de cette eau-là.
On a peur d'écrire des livres comme ça.
Et ce qui est extraordinaire, après, c'est un roman très ambitieux qui, en fait, parle de la situation de la Turquie, puisque il s'agit de confronter deux versions, c'est-à-dire qu'il y a Œdipe Roi, donc où c'est le fils qui tue le père, et la version orientale où c'est le contraire. Voilà, c'est le père qui tue le fils, et toute la construction donc sur quelque chose de très intellectuel. Ce qui est très intéressant, c'est comment Pamuk réussit à rendre ce dispositif intellectuel de confrontation entre l'Occident et l'Orient à travers Œdipe Roi, et quand même le niveau, mais il le rend d'une manière totalement formel, très simple, et justement
à
très...
la Kafka en réalité.
Ah oui,
pense à Kafka,
parce que tout est matériel. Oui. Justement, je parlais de ce plan qui a un moment du treuil. C'est que quand on est là, on construit le puits avec eux. Je veux dire, tout est encore une fois très réaliste, très matériel, pour finalement devenir un objet totalement métaphysique.
Olivia.
Tout à fait d'accord.
Alors moi, j'étais partie comme Frédéric, c'est-à-dire c'est à peu près tout ce qui m'ennuie. Et je me
t'aimes pas les romans d'anticipation,
non.
T'aimes pas les romans
les fables,
turcs,
t'aimes non, pas non, j'aime pas comme ça les grandes fables
qui
prétendent dire...
T'aimes pas les tragédies grecques?
Mais j'ai beaucoup aimé ce livre, parce que je trouve, moi j'ai passé 100 pages au fond du puits à me dire est-ce qu'il va trouver de l'eau ou
est-ce
pas.
Est-ce qu'ils vont venir me chercher surtout
J'ai trouvé qu'il avait une manière de raconter cette situation de manière extrêmement prenante.
Je préférais les porteurs d'eau d'Atik Raimi, dont on a parlé ici
oui.
il y a quelques mois.
Non, tu vois, j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose de plus grossier dans les porteurs d'eau. Là, je trouve qu'il y a une grande beauté dans la relation de ces deux hommes. Après, la femme rousse, c'est une sorte d'allégorie de la femme. J'ai
ouais, mais c'est ça, il y a trop d'allégories.
Non, il n'y a pas d'allégories dans ce livre, vous vous trompez.
Mais la femme rousse m'a bien plu. En plus, c'est une fausse rousse, je pense.
Elle n'est même pas décrite.
Je pense que c'est une fausse rousse.
Comment tu peux le savoir?
Eh bien,
parce qu'en Turquie,
il n'y a pas de roux.
Il n'y a pas de roux, pas tellement.
Et que les femmes rousses sont toujours des femmes qui se sont teint les cheveux par transgression. Et après, j'ai trouvé que c'était un livre sublime sur le remords. Vous n'avez pas trouvé ça ?
Est-ce
qu'il a tué son père ou pas ?
Oui.
Il va faire comme si ça n'existait pas. Est-ce qu'on peut échapper à son destin ou pas ? Moi, je l'ai dévoré d'une traite. Je trouvais que c'était passionnant.
La femme aux cheveux roux, c'est donc le roman de Orhan Pamuk et c'est chez Gallimard. Et allez, on a commencé avec du punk, on va terminer avec du punk, avec « À jeter sans ouvrir » chez Buchet-Chastel, le livre que publie à 64 ans la très punk, très féministe, très radicale, très anglaise, vive Albertine, la guitariste des Slits, là tu te souviens maintenant Arnaud ?
Oui, les Fentes en français.
Un groupe de filles très délurées, et c'est le deuxième tome de ses mémoires, après « Deux fringues, deux musiques et deux mecs », qui reparaît en 10-18, qui a connu un beau succès. Ici, elle se consacre à sa fille, à sa mère malade, à ses mecs qui en valent rarement la peine. Bref, elle décrit ce que c'est que de vieillir quand on a été punk. Sans oublier de citer ses alliés. Alors, il y a Louise Bourgeois, bien sûr, Violette Leduc, Virginie Despentes. Quant au titre, eh ben, il vient de l'inscription qui se trouvait sur le sac de voyage contenant le journal intime de sa mère Kathleen, dont la mort d'ailleurs shakespearienne va hanter et scander le livre, une mort après laquelle Vive Albertine a arrêté la musique. Elle dit qu'elle applique désormais, là je la cite, à son écriture les règles du punk, être honnête, avoir quelque chose à dire, faire court. On bannissait les solos de guitare, j'évite les longs paragraphes. Alors, Olivia, cette Vive Albertine, est-ce qu'elle t'a plu ou pas ?
Ah non, j'ai trouvé que c'était extraordinairement ennuyeux. C'est-à-dire que moi, j'étais ravie de découvrir une punk. Je pensais qu'elle allait me parler de punk, qu'elle allait me parler de Sid Vicious, qu'elle allait me parler de...
Ben c'est dans le premier,
punk.
Ça.
C'est le premier, ça, oui.
Ah
c'est
oui,
le premier.
Alors j'aurais dû lire le premier parce
ah ben,
que
le premier,
là,
il faut absolument
c'est
le lire.
Un livre très sentimental, très géniard, j'ai trouvé. Sur une femme qui perd sa mère, c'est fort triste, hein, je suis très affligée pour elle. Mais
non, t'es
j'ai
pas
trouvé
affligée,
que,
là pour l'instant t'es
que
pas
c'était
affligée.
Pas très intéressant, que c'était pas très bien écrit. C'est un livre qui est très dans le ressentiment des hommes. Sa mère lui a appris que tous les hommes étaient des méchants idiots.
Oui, c'est pas vrai.
Elle se compare...
elle ne connaît pas Michel Crépus.
Elle ne connaît pas Michel, ni Frédéric, ni Arnaud, ni toi.
Ouais,
elle compare le livre à un moment, à Just Kids, de Patti Smith, et je trouve qu'elle en est très très loin.
Dont le masque
si j'étais
beaucoup, beaucoup
méchante, je dirais que là, c'est Just Pigs.
Ouais. Oh là là,
parce
oh
qu'elle parle vraiment
qu'est-ce
que
t'as fait
des comment hommes de manière
comme
pas très intéressante.
Vous m'avez tombé sur des connards aussi.
Bah oui, mais bon, j'y peux rien. Hein. Je l'ai pas forcé. Il y a deux, trois scènes où tout d'un coup elle devient punk. Alors là, c'est bien. Elle va asperger des gars qui l'énervent avec de la Guinness. Non, vraiment, j'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt.
Arnaud,
bonbon.
Parce que le problème, c'est que le premier livre qu'elle a écrit, il est absolument génial.
Après, peut-être.
Et c'est le plus beau livre que j'ai lu sur le punk, le plus vrai, avec des choses. Parce qu'elle a, donc elle a été la petite amie de Mick Jones, le guitariste de Clash. Elle a très bien connu Sid Vicious, et je crois que c'est elle qui fait le plus beau portrait de Sid Vicious dans des Sex Pistols.
C'est quand même pas rien.
Ah oui, et surtout, pour la première fois, je lisais des choses qui avaient l'air vraies sur Sid Vicious, qu'elle a connu vraiment avant qu'il devienne une star. C'est absolument merveilleux, parce qu'on voit le début du punk
à Londres.
Oui,
mais là, c'est pas le livre qu'on a lu. Hein,
non,
ce
je
soir.
Sais bien. Non, mais c'est parce que l'autre ressort en poche.
Donc je rappelle, c'est deux fringues, deux musiques et deux mecs, et ça, c'est le premier volume en 10-18.
Donc où elle raconte comment elle est devenue la guitare. Des Slits. Il faut dire les Slits, c'est le premier groupe punk féministe qui balançait.
Qui est très féministe, hein.
Oui, qui balançait des Tampax usagés sur leur public. Voilà. Pour vous dire, c'était quand même voilà. Bon, donc c'était du gros féminisme bien lourd.
Parce
mais
qu'on ne fait jamais au masque de la plume, ça. Hein.
On l'a pas fait encore. Et
c'était
même elle
une démarche novatrice.
Et Vive Albertine, elle se promenait avec un Tampax usagé.
Bon, ça va.
En boucle d'oreille. Non mais d'oreille. Et il y a une scène
qui la rentre.
Rendez-nous la marquise de Sévigné.
Ah bon, voilà. Donc, ce livre-là a été formidable. Et celui-là, on se dit, moi, je pensais toujours punk un jour, punk toujours. Et là, on s'aperçoit que non, pas vraiment. Il y a quand même la méméification qui s'installe à 64 ans.
Ah, merci.
Et qu'il manque quand même, hein, il manque un peu de Tampax usagé.
Oh! Michel.
Moi, écoutez, j'ai trouvé ce livre épatant. Et c'est la vérité. C'est la vérité. J'ai pas lu le premier tome. Donc je m'en excuse, mais je vais me l'acheter en sortant.
Ah, tu peux là. C'est
j'ai beaucoup de courses à faire.
Il y a à côté des Natura Rerum, hein.
Mais absolument.
Tant pis, Albertine.
La bonne lecture du punk, c'est Lucrèce. Ça, c'est clair. le dirty, le côté Rolling Stone, mais sale, qui est là entre Beggar's Banquet et...
Il est complètement starbé.
Mais non,
c'est le patron de la NRF quand même.
Mais pas du tout. Hein. Et il y a une chose que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, qui est d'ailleurs la chose la plus importante, qui est très rare dans les livres qui existent sur le rock ou qui sont dans la mouvance du rock, c'est qu'elle a le sens de la génération. Et que donc, elle parle de sa mère, de sa grand-mère, même de son arrière-grand-mère, il me semble, à un moment.
Sa fille.
Ou de sa fille. Enfin, on est dans quelque chose qui n'est pas contenu dans les seules limites de la génération punk. Mais... On voit un peu d'où ça vient et peut-être où ça va. Et ça, c'est touchant. Et je trouve que c'est juste, ça touche juste. Et j'aime ce livre.
Et tu connaissais son groupe, par exemple, ou pas?
Non, je dois dire, je ne connaissais pas. Pourtant, vraiment, je connais bien le rock. Hein. Ouais. Non, c'est vrai.
Ah, moi, je connaissais. Moi, je connaissais.
Mais ça existe en, je crois que ça existe plus en 33 tours, cela dit. Hein.
Non, mais je vais vérifier, je vais voir.
Les Slits,
Fred.
Elles ont fait une reprise du I Heard It Through the Grapevine de Marvin Gaye, qui est vraiment une excellente cover de ce morceau mythique de
mais
la soul music.
Elle parle d'un morceau, je crois, des Slits, Dreaming in a Train, Dreaming, je ne sais plus, Rêver. C'est très beau, le titre est très beau, et j'ai eu envie de l'écouter.
Mais je te promets qu'après tu vas rentrer à la maison, tout va bien se passer. Tout va bien.
Surtout, je veux être sûr qu'il y a un marchand de disques ouvert ce soir.
Tu as le Lucrèce à acheter.
J'ai des courses à faire. Donc
et toute l'œuvre.
M'excuserai de partir vite.
Frédéric.
Alors, le titre, c'est À jeter sans ouvrir. Donc, évidemment, c'est un titre un peu risqué.
Oui, c'est risqué pour un livre.
Assez punk, hein, quand même.
Oui,
oui. Oui, oui,
on peut être tenté de suivre le conseil aussi. Non, dans le style féministe punk qui affronte la deuxième moitié de sa vie, je préfère vraiment Virginie Despentes. Je pense que là, on est...
Vraiment.
Oh bah, si,
c'est
rien
beaucoup
à
plus
voir.
Énergique, justement, beaucoup plus rock. Là, c'est plutôt la loose, en fait. C'est que, comme dit Arnaud,
non, c'est
elle
la
est fauchée,
banlieue, c'est
elle
la
est divorcée, elle est mère, elle est orpheline, elle est...
C'est voilà. Anglais, ça, c'est anglais.
Oui, mais c'est anglais sans l'humour anglais. Pas tellement d'humour, en fait. C'est plus surtout plaintif,
quoi.
C'est
vrai. Là, je suis obligé d'être un peu d'accord avec toi.
Donc,
juste...
Voilà. Et effectivement, Patti Smith, c'était mieux. Il y a déjà eu pas mal de livres là-dessus, en fait, sur le bilan post-punk.
Ouais, c'est vrai.
Donc, moi, je suis pas très... Non, je suis pas enthousiaste. J'ai
c'est
j'ai
elle
juste
en photo,
chose à dire.
Sur la couverture, c'est elle.
C'est elle, oui justement. Absolument. Sur la couverture, il y a sa photo, et c'est le sosie de Nathalie Riquel, la fille de Sonia Riquel.
Hein? Je suis d'accord. J'y ai pensé tout le livre. Je trouvais que c'était pas très
important
aujourd'hui,
mais je suis d'accord avec toi.
Et qui est Nathalie Riquel?
La fille de Sonia Riquel.
Ah oui, c'est bien ce que tu dis.
C'est une écrivaine très intéressante.
Ah bon?
Voilà. Très proche de Guillaume Musso.
Et de Lucrèce.
Non, je déconne.
Non, mais c'est triste. En fait, ce que devient le rock. Regardez, Mick Jagger, on lui a posé un stent. C'est quand même moins classe finalement que Jim Morrison. Et du coup, on se dit, finalement, en fait, il faut pas vieillir. Quand on est une rock star, il faut pas vieillir. Il faut mourir
jeune. La question,
c'est
est-ce qu'il faut vieillir ou est-ce qu'il faut ne pas écrire de livres. C'est ça la vraie question.
Voilà, parce que qu'elle soit fauchée, orpheline, tout ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est la manière dont elle le raconte. Comme dirait Michel Crépu, l'histoire, on s'en fiche.
Oui, ça c'est
mais
vrai.
La manière dont elle, t'es d'accord, hein, Michel, je te cite.
Il est d'accord avec lui.
Mais la manière dont elle raconte cette existence, je trouve, manque totalement d'aspérité, d'inspiration, style.
Je me répète et je suis d'accord avec Arnaud, c'était pas du tout le cas du premier volume. Ouais. Vous verrez la différence.
Il faut absolument le lire.
Voilà, de musique et de mecs. Et le nouveau livre, donc, de Vive Albertine, c'est À jeter sans ouvrir et c'est chez Buchet-Chastel.
C'est un prénom, ça, Vive?
Non, c'est un.
C'est Viviane.
Oui, c'est un pseudo pour la scène.
C'est l'abréviation de Viviane, qui est un prénom assez connu.
C'est comme si tu disais...
Mich Crépu.
Si on disait Michou Crépu, par exemple, tu vois.
OK.
Michou Crépu.
Mike.
Okay. Mike, ça lui irait bien. Hein.
Mike Crépu.
Je vous signale que j'ai interviewé Keith Richards il y a 20 ans.
Mais ça, tu l'as déjà dit 10 fois au masque.
Ben oui, parce que... Je me lasse pas.
Parce que tu as
pas compris. J'ai l'impression que personne ne le sait et que c'est très important de le savoir.
Bon, j'ai donné le titre où j'ai donné. Je suis un peu perdu avec Michel. Bon, on a tout à fait le temps de donner des conseils ce soir. Ben, on va commencer par toi, Michel. Comme ça, tu vas essayer de te souvenir.
Alors, je voudrais vous recommander, parce que c'est un auteur qu'on ne connaît pas bien encore. Il a publié 5 ou 6 livres déjà. Il s'appelle Pierre Sandor.
Ah oui.
Ah oui. C-E-N-D-O-R-S.
D-O-R.
Bon. Ah non, il a publié au moins 6 livres. Et là, ce livre s'appelle Silence Moon. C'est un roman un roman un peu initiatique, donc je ne vais pas vous le raconter, parce que je n'en serais pas capable. Mais j'ai été aussi un peu ensorcelé par ce livre, qui est écrit un peu en miroir du célèbre roman d'Hermann Hesse.
Loup des steppes.
Le Loup des steppes. Et ce livre est.
Steppenwolf.
Ce livre est une émanation.
Tu pourrais parler poliment quand même quand tu es au micro.
Oui. Oh, quand même, l'Académie française a accepté ce mot. Et donc voilà, je recommande ce livre parce que c'est un livre très très singulier aux éditions du Tripode. Et je vous conseille, voilà, c'est même rien que pour avoir la couverture, mais vous n'êtes pas forcément obligé de lire.
Oh non, Michel, tu peux pas faire ça quand même. Quand on conseille un livre, on dit pas.
Non mais
prenez-le pour la couverture.
Moi, ça m'arrive.
Non.
Je regarde le livre et j'ai
il est très beau.
Non, mais c'est pas bien ça. Non,
je suis pris par les émanations du livre. Et après, je lis. Ouais. Mais je t'assure, je t'assure, c'est.
Bon alors, c'est la lecture au Tripode et tu redonnes le titre.
Silence Moon, Pierre Sandor.
Voilà.
Aux éditions du Tripode.
Bon.
Voilà.
Et, Frédéric.
La couverture. La couverture est belle aussi. Hein. Celle du livre de Philippe Djian, Les Inéquitables, avec cette jeune femme qui regarde la mer. Ouais. Philippe Djian, à un moment, on l'avait un peu perdu, comme Michel Crépu. J'étais
là.
Je comprenais plus trop les livres de Philippe Djian, et je trouve qu'il revient maintenant très très en forme depuis quelques livres, avec des livres qui sont dans un style télégraphique très dense, très intense, avec des rebondissements permanents. C'est toujours un peu des histoires policières. Là, c'est un homme qui trouve 3 kilos de cocaïne sur une plage, chose qui est arrivée au Pays Basque. Et donc c'est tout l'engrenage de ce type qui va s'improviser dealer et tous les dégâts autour de lui, sa famille et tout ça. Et il y a vraiment sans arrêt des chocs. On se fait avoir. C'est très drôle. Il est de retour, quoi. Philippe Djian, he's back. Voilà.
Les Inéquitables, c'est Philippe Djian et c'est chez Gallimard. Mon conseil, c'est un livre qui s'appelle À l'absente, qui est le livre de Martine de Rabaudy chez Gallimard sur Florence Malraux.
Très beau.
La fille unique de Clara et André Malraux, dont Martine a eu le privilège de recueillir les souvenirs et qu'elle a accompagné jusqu'à sa mort le 31 octobre dernier. Florence Malraux, je le rappelle, qui fut notamment la meilleure amie de Sagan, l'épouse d'Alain Resnais, l'assistante de François Truffaut sur Jules et Jim, la fille spirituelle d'Hemingway, il y a des passages formidables où il l'appelle ma fille, et qui a finalement succombé à la maladie de Charcot, la même qui avait d'ailleurs frappé feu notre ami du Masque et la Plume, Mathieu Gallet. Bref, on reparlera de ce très beau livre, Au Masque et la Plume, mais je voulais d'ores et déjà vous le signaler. Olivia.
Ah, j'aurais pu vous le signaler tant c'est un livre merveilleux sur ce qui reste finalement quand on est face à la maladie. Et bien pour Florence Malraux, il restait l'amitié, l'élégance et l'humour. J'ai adoré ce livre.
On va donc en reparler au mois de juin.
Moi je vous conseille Retour à Birkenau de Ginette Kolinka. Elles étaient 3 femmes qui étaient liées à jamais par leur déportation. Il y avait Simone Veil, il y avait Marceline Loridan et il y a Ginette Kolinka qui a 94 ans et qui raconte pour la première fois ce qu'a été sa déportation. Elle raconte de manière, je trouve, extraordinaire comment en quelques heures on arrivait à gommer toute humanité dans les femmes déportées. Elle raconte le retour et elle raconte comment jusqu'en l'an 2000, elle n'avait jamais, jamais raconté ce qu'elle avait vécu. C'est vraiment un tout petit livre.
C'est chez
extraordinaire, chez Grasset, écrit avec Marion Ruggieri, Retour à Birkenau.
Et pour finir, Arnaud.
Aussi un tout petit livre, hein, ça fait 50 pages.
Ah oui, qui est étonnant.
Ah oui, c'est Désordre de Leslie Kaplan, qui est une espèce de conte swiftien. On lit ça, ça se lit en une heure. Ça commence comme ça. Il y eut ce printemps-là une série de crimes particuliers, rapidement nommés dans la presse, crimes du 19e siècle. Ceux qui les commettaient étaient des exploités de toutes sortes, employés, salariés, ouvriers, agricoles, domestiques variés, misérables divers. Et ceux qui étaient assassinés étaient des patrons. Donc voilà, ça va durer pendant 50 page, on va voir ces crimes tout à fait où personne ne s'excuse, et même les gens disent ça suffit la connerie, d'où ce magnifique bandeau sur ce livre. Lisez-le et la fin est absolument extraordinaire et très optimiste, et évidemment c'est une métaphore sur la crise que nous vivons en ce moment.
C'est chez POL et tous ces conseils vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume franceinter.fr. Merci beaucoup, Michel Crépu, Frédéric Becbédé, Olivia de Lamberterie et Arnaud Vivian pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin. Avec la collaboration de Lysiane Selam à la technique au théâtre de l'Alliance française, il y avait ce soir, et je les remercie, Bernard Laniel, Jean-Benoît Tétu, Charles Bouticourt. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Vous notez, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu ici même, au théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, le jeudi 16 mai, pour une seule émission consacrée au cinéma. Dans une semaine, on parle de films. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.
Merci Jérôme Garcin, et à la semaine prochaine.